VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a prolongé d'un an le mandat de sa force déployée en Gambie lors de son sommet à Monrovia, selon le communiqué final rendu public dans la nuit de dimanche à lundi. Cette force, la MISEGA, majoritairement formée de militaires du Sénégal voisin, a été mobilisée en janvier pour contraindre l'ex-président gambien Yahya Jammeh à céder le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow. Les dirigeants de la CEDEAO ne mentionnent pas explicitement les récentes tensions entre la MISEGA et une partie de la population gambienne, en particulier dans la région d'origine de Yahya Jammeh, où une manifestation vendredi contre leur présence s'est soldée par un mort et plusieurs blessés parmi les protestataires. Au Mali, le référendum constitutionnel est prévu le 9 juillet prochain. Le texte de la nouvelle constitution a été adopté par le Parlement samedi. Changement majeur dans la nouvelle loi fondamentale, la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes, mais le mandat présidentiel demeure à 5 ans, renouvelable une seule fois. L'opposition parlementaire a fait l'économie de son vote lors de l'adoption du projet de constitution parce que le document ne prend pas en compte certaines de ses préoccupations. Modi Diallo, député URD.
Il était question dans les amendements de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. Il était tout à fait de bon ton, selon nous, de prévoir en cas de manquement grave au devoir du premier responsable de la nation qu'il se soumette au regard de la loi.
Modi Diallo, député de l'opposition malienne. En République centrafricaine, le retrait des forces américaines et ougandaises inquiète les populations du sud-est. Ces forces constituaient le dispositif de lutte contre la LRA de Joseph Kony, le préfet du Haut-Mbomou, la région du sud-est, se dit lui aussi perturbé par l'annonce du retrait des soldats américains et ougandais. Il dit ne pas comprendre cette décision alors que la LRA n'est pas encore affaiblie. Ghislain Dieubéni Kolengo.
Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que la LRA n'est pas encore affaiblie et la LRA continue ses exactions, ses atrocités sur ma population. Donc je suis inquiet. Je souhaite vivement que les gouvernements de la République centrafricaine et le gouvernement des États-Unis mettent sur table une coopération militaire bilatérale pour que cette fois-ci l'armée américaine s'occupe des forces armées centrafricaines, disons, appuie les FACA dans leurs efforts de sécuriser non seulement le Haut-Mbomou, mais toutes les parties qui sont encore dans l'insécurité.
Ghislain Dieubéni Kolengo, le préfet du Haut-Mbomou. RDC, le vote du budget qui devrait permettre au Premier ministre Bruno Tshibala d'organiser des élections, ainsi que les sanctions de l'Union européenne contre quelques personnalités congolaises ont largement dominé les sujets d'actualité de la semaine. Retour sur ces deux sujets d'actualité avec Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'organisation des élections, l'amélioration du social des Congolais et la stabilisation de la situation sécuritaire sont parmi les priorités du gouvernement Bruno Tshibala. Le Premier ministre espère accomplir ses missions avec le projet de budget présenté mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Projet de budget évalué à près de 11 300 milliards de francs congolais, soit environ 8 milliards de dollars. Concernant les élections prévues à la fin de cette année, conformément à l'accord politique dit de la Saint-Sylvestre, le Premier ministre et son gouvernement pensent mobiliser 1 169 milliards de francs congolais, soit près de 800 millions de dollars sur ressources propres. Il compte également sur l'appui des partenaires internationaux. Bruno Tshibala.
Les élections occupent une place de choix dans le budget. Sur ressources propres, le gouvernement entend débourser 1 169 milliards de francs congolais pour l'organisation des 3 scrutins prévus d'ici la fin de cette année. Nous attendons des partenaires au développement, des apports financiers et techniques à convenir avec le gouvernement.
Ce projet de loi des finances exercice 2017 a été diversement commenté dans les milieux politiques. Certains députés nationaux l'ont qualifié d'irréaliste car ne tenant pas compte des réalités du pays. et d'autres ont émis des doutes quant à la mobilisation des fonds nécessaires pour l'organisation des élections.
Le projet de budget n'explicite pas la source de financement des élections. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas en mesure de financer les élections. Alors, à quoi jouez-vous ?
Que le Premier ministre me dise comment compte-t-il obtenir l'aide prévue avec la présence dans son gouvernement des ministres sanctionnés.
Déclaré recevable par l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances est actuellement au niveau de la Commission économico-financière pour amélioration avant d'être soumis au vote, cette fois-ci au Sénat, et promulgué finalement par le président de la République. Un autre fait ayant défrayé la chronique, ce sont des nouvelles sanctions européennes contre 9 hauts responsables congolais, dont 2 ministres en fonction et 3 responsables militaires. Ils sont accusés notamment d'entrave au processus démocratique. D'après Catherine Rey, porte-parole de l'Union européenne, l'objectif est d'accompagner la République démocratique du Congo vers des élections crédibles, transparentes et apaisées, qui d'après elle constituent la solution aux multiples problèmes que connaît le pays.
Pourquoi est-ce que le Conseil a fait ça aujourd'hui ? Parce que ça exprime en fait notre inquiétude sur les questions des droits de l'homme et en particulier la situation dans les Kasaï. On comprend que la violence et la situation des droits de l'homme, qui sont en l'occurrence dramatiques dans cette province, ne peut pas être dissociée de l'impasse politique à Kinshasa. Et en fait notre objectif c'est d'accompagner le pays vers des élections crédibles, transparentes, puisqu'on pense que c'est la seule solution durable.
Plusieurs cadres de l'opposition politique ont salué ces sanctions alors que le gouvernement n'y a toujours pas réagi. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Sept migrants d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés morts dans un camion frigorifique abandonné près de la capitale libyenne Tripoli. Il y avait 35 migrants clandestins à bord. Malheureusement, 7 d'entre eux étaient déjà morts. Les 28 survivants ont été soignés et sont en bonne santé, a indiqué aujourd'hui à l'AFP un responsable de la lutte contre l'immigration clandestine en Libye. Au Maroc, la contestation populaire ne faiblit pas dans le nord du pays malgré les arrestations. Dimanche soir, pour la 9e nuit consécutive, de nouveaux rassemblements se sont déroulés dans la ville d'Al-Hoceima et d'autres localités pour exiger la libération de Nasser Zefzafi, leader emprisonné du Irak, le mouvement qui anime la contestation. L'Égypte a annoncé aujourd'hui avoir rompu ses liens diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme après des mesures similaires adoptées par ses alliés du Golfe, l'Arabie Saoudite et Bahreïn. L'Égypte a par ailleurs annoncé la fermeture de ses frontières aériennes et maritimes devant tous les moyens de transport qatari.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La police britannique a procédé aujourd'hui à de nouvelles arrestations dans l'enquête sur l'attentat de Londres revendiqué par le groupe État islamique qui a fait 7 morts et des dizaines de blessés à quelques jours des élections législatives. Les identités des assaillants n'ont pas été rendues publiques, mais la police a assuré dans un communiqué qu'elles seraient dévoilées dès que cela serait possible opérationnellement. La première ministre Theresa May a annoncé le maintien des élections législatives prévues pour jeudi, qui doivent renouveler la Chambre des communes au moment où le Royaume-Uni s'apprête à négocier le Brexit, ainsi que la reprise de la campagne lundi après une journée de suspension. Et puis, ici même aux États-Unis, le président russe Vladimir Poutine a assuré dans une interview à la chaîne NBC diffusée dimanche, à la chaîne américaine donc, qu'il connaissait à peine l'ancien conseiller de son homologue américain Donald Trump, Michael Flynn, au cœur de l'affaire d'une collision supposée avec Moscou. Le président russe était interrogé sur ses liens avec l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui avait dû démissionner à la mi-février après 3 semaines de mandat accusé d'avoir menti sur ses relations avec des responsables russes. La présidence américaine est empêtrée depuis des semaines dans l'affaire tentaculaire de la collusion supposée entre des responsables russes et l'entourage de M. Trump durant la campagne présidentielle de 2016. Et pour terminer, le gouvernement turc a annoncé aujourd'hui avoir entamé des démarches afin de retirer la nationalité à 130 fugitifs, dont le prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir ourdi un putsch manqué au mois de juillet, et des députés pro-kurdes. Les concernés se verront déchus de leur nationalité s'ils ne rentrent pas sous 3 mois en Turquie, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans le journal officiel. M. Gulen, désigné par Ankara comme l'instigateur du coup de force, malgré les dénégations de l'intéressé, réside depuis la fin des années 1990 aux États-Unis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.